Bonjour Yann Manouk.
Bonjour.
Après la Mongolie, que vous connaissez bien, à laquelle vous avez consacré une trilogie, vous nous emmenez cette fois au Brésil et plus particulièrement dans l'état du Mato Grosso qui donne son titre à votre nouveau roman. Quel est votre lien avec ce pays?
J'ai beaucoup de liens avec le Brésil en général, j'y ai voyagé une dizaine de fois, mais j'ai un lien très particulier avec le Mato Grosso et plus particulièrement avec le Pantanal, qui est la partie sud du Mato Grosso, dans laquelle j'ai vécu pratiquement 13 mois, début des années 70, et qui est une région pour laquelle je garde un énorme coup de cœur, puisque ça devient à la saison des pluies le plus grand marécage du monde, plus riche en faune, en flore et en tradition indienne que l'Amazonie.
Et qu'est-ce que vous y faisiez?
Je terminais en dérive 27 mois de route, sac à dos. J'y faisais rien de particulier, sinon faire l'imbécile le plus loin possible au tropique.
Alors, c'est une région aussi qui a inspiré ou sur laquelle a travaillé Claude Lévi-Strauss.
Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est une des régions les plus riches en culture indienne. Celle qui, malheureusement, par la suite, a été la plus détruite. Il reste pratiquement plus de traces de cette culture indienne. Mais il y a deux, trois choses que je cite dans le bouquin sur des survivances. Qui explique par exemple pourquoi certaines fermes sont sauvées des eaux et pas d'autres, et qui a toujours un rapport avec les Indiens. Et oui, c'est une grande, grande région de culture indienne, avec des tribus qui ont été extrêmement dures à contacter, extrêmement violentes. Mais malheureusement, c'est devenu maintenant une zone de culture extensive et il ne reste plus grand-chose.
Donc votre roman s'ouvre sur l'arrivée en 2006 d'un écrivain français, Jacques Arré, un pseudonyme d'ailleurs, auteur d'un livre intitulé « Un roman brésilien » et qui, 30 ans après son dernier séjour, est invité par un mystérieux éditeur qu'il rejoint à Petropolis, dans la maison même où Stefan Zweig, l'auteur autrichien, s'est suicidé avec sa femme en 1942. Vous connaissez cet endroit?
Oui, je l'ai visité, oui.
Et j'imagine que vous avez aussi placé cette scène d'ouverture, qui en l'occurrence dure tout au long du livre, parce que la narration se tient quasiment en une nuit, pour des raisons littéraires.
Oui, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est l'attachement que j'ai, l'amour que j'ai pour l'écriture de Stefan Zweig. Et ensuite, le sens que ça donne au livre, parce que quand quelqu'un du talent de Zweig arrive à se sauter la vie, parce que j'ai du mal à dire qu'il s'est tué, il s'est juste ôté la vie, simplement par rapport à ce que le monde lui promettait comme lendemain. Quand on le remet en perspective par rapport à aujourd'hui, c'est quelque chose auquel j'étais très sensible. Et puis une partie du bouquin était destinée à être une réflexion sur l'écriture, et notamment sur le lien entre l'auteur et ses personnages, et ceux qui ont inspiré ces personnages.
Effectivement, parce que très vite, votre personnage principal, qui est écrivain, va se rendre compte que le mystérieux éditeur est en fait un homme qu'il a connu 30 ans auparavant, un policier, qu'il a mis en scène dans ce fameux roman brésilien, mais que la réalité a été travestie au profit de la fiction. Et là se pose la question même de la littérature. Est-ce qu'on peut écrire à partir de la réalité un roman qui n'est pas fidèle à la vérité et donc prêter à des hommes et à des femmes des histoires qui ne sont pas tout à fait les leurs? Quelle est votre réponse, Yann Manouk?
Alors d'abord, la question, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question, c'est ce qu'on me pose souvent dans des festivals ou dans des signatures. On me demande souvent quelle est la part de moi dans le narrateur, on va dire. Mais moi, ce qui me fascine, c'est quelle est la part des gens que j'ai rencontrés dans les personnages secondaires. Et la réflexion, effectivement, c'est que tous les personnages d'un roman sont d'une façon ou d'une autre, indirectement, inspirés de gens que nous avons connus. Le problème, c'est de savoir, est-ce que, comme votre question l'a supposé, est-ce qu'on s'en inspire et qu'on s'en sert, ou est-ce que ce ne sont que des matériaux à partir desquels on reconstruit autre chose? Et la réponse, elle est, chacun peut se faire son idée et trouver une réponse dans le livre, parce que moi-même, je n'ai pas de réponse à ça. Moi-même, je n'ai pas de réponse entre chacun des personnages qui a deux noms, donc le nom qu'on lui a donné dans le roman et le nom qu'il a dans la narration. Et moi-même, je n'arrive pas à trancher sur ce discours-là. C'est sûrement des gens qui ont existé. Et je suppose que tout ce qu'on écrit, un jour ou l'autre, va frapper quelqu'un d'une façon ou d'une autre.
Alors, on va revenir aux conséquences de ça, mais tout de suite, une question. Du coup, quelle est la part de réalité dans ce roman Mato Grosso, Yann Manouk?
Alors, tout ce qui concerne la région, le Pantanal, c'est 100% réel. Tous les problèmes écologiques, toutes les descriptions, les situations. tout ce qui concerne les sentiments est réel. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai, moi, vécu les mêmes émotions et les mêmes sentiments que plusieurs de ces personnages-là.
Dans ma Donc, pas un seul en particulier.
Pas un seul en particulier, plusieurs. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que le reste est reconstruit à partir de choses que ou moi ou d'autres personnes ont vécues, mais que j'ai reconstruit de façon différente pour pouvoir simplement essayer de donner corps à l'axe principal du récit, qui est justement cette dualité entre fiction ou réalité, sans prendre position, sans pouvoir trancher.
Donc que les choses soient claires, vous n'êtes pas Jacques Haré et vous n'avez jamais croisé dans votre vie antérieure au Brésil un policier qui pourrait s'appeler Santana ou Figueras.
C'est moins compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, pardon. C'est moins simple que ça. J'ai rencontré un policier avec qui j'ai eu des problèmes sérieux, pas de la même nature, parce que la seule chose qui est vraie, c'est que je n'ai tué personne.
Oui, bon. Contrairement à votre personnage principal.
Contrairement à mon personnage principal.
Il avoue son crime dès le début, ouais. Donc on ne révèle rien.
Mais tous les ennuis qu'il affronte, personnels et professionnels, je les ai, à un certain moment, d'une façon ou d'une autre, connus moi aussi. Pas dans les mêmes proportions, pas de façon aussi grave, pas de façon aussi dramatique, mais par la force des choses, ça recoupe des choses que j'ai vécues.
Et sachant que donc ce livre se déroule à l'époque où vous étiez au Brésil, donc dans les années 70, est-ce que ça veut dire que depuis cette époque, vous portez en vous l'envie d'écrire un livre sur cette région et sur le Brésil ?
C'est le premier manuscrit que j'ai écrit. La première version de ce manuscrit, elle date de 76, c'est un an après mon retour. Il était à l'époque très ambitieux, très littéraire, carrément nouveau roman, deuxième personne du pluriel, présent à l'indicatif, déstructuré. Vraiment le premier roman ambitieux où on met trop de tout, trop de pathos, trop de littérature. Et puis au cours des 40 ans qui ont suivi, je l'ai réécrit 3 fois. Et c'est après l'expérience des 3 polars mongols que j'ai décidé que la meilleure façon serait de garder à la fois la deuxième et la troisième version, mais en les mêlant à une mise en abîme, c'est-à-dire cette fameuse lecture du roman à l'intérieur du roman, et puis d'y rajouter une petite trame policière, on va dire.
Donc c'est vraiment un roman qui vous tient à cœur.
Oui, absolument. Absolument, et d'ailleurs, je dois remercier tous les lecteurs de Yaroud Elger, parce que c'est le succès d'Yaroud Elger, et des 3 volumes de Yaroud Elger, de la trilogie mongole, qui m'a mis en position de tenir bon et d'imposer cette nouvelle écriture et ce nouveau style, ne serait-ce que par l'éditeur.
Alors, revenons à Mato Grosso et revenons sur cette structure narrative très particulière, puisque ce roman est aussi l'histoire d'une femme qui, en lisant le livre de Jacques Haré, se suicide. Première question, est-ce qu'on peut vraiment se tuer à cause d'un livre, Yann Manouk ?
Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je pense que quelquefois, certains auteurs arrivent à définir des émotions tellement précises et tellement fortes que je pense que certaines personnes qui le reçoivent et qui s'y reconnaissent dans la vie peuvent effectivement, pas forcément en mourir, mais en tout cas arriver à des décisions capitales dans leur vie. Oui, je pense.
Donc la littérature est dangereuse ?
Oui, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs.
Pourquoi heureusement ?
Heureusement, parce que si c'était pas un art dangereux, ça ne vaudrait le coup ni de l'écrire ni de la lire.
Question consécutive, est-ce que vous, Yann Manouk, vous pensez aux conséquences de votre écriture ?
Alors, j'y pense parce que je fais toujours attention, même dans la trilogie mongole, par exemple, je fais attention à ce que les noms ne soient pas exactement orthographiés de la même façon pour que ça ne heurte personne. Dans ce bouquin, j'ai fait la même chose, puisque c'était la réflexion même du livre, de savoir est-ce qu'un livre peut bouleverser des vies. Et dans ce bouquin-là, j'y ai fait attention, mais dans le sens inverse, en essayant de ne pas éviter ça, le problème, au contraire, en essayant d'aborder le problème et de le prendre à bras-le-corps, c'est-à-dire de mettre en scène carrément quelqu'un qui se suicide à la suite d'un bouquin. Et en fait, toute la narration au cours du bouquin, c'est justement un débat entre 2 personnes sur l'impact que l'écriture peut avoir. Et la façon dont... c'est surtout la façon dont c'est ressenti. C'est-à-dire que non seulement un auteur va écrire quelque chose de précis, mais entre ce qu'il écrit et ce que les gens vont ressentir, il y a quelquefois un fossé qui... C'est tout le jeu.
Oui.
Dans le livre, il y a une question, est-ce que c'est un amour, est-ce que c'est une passion amoureuse, est-ce que c'est un viol ? Il y a 2 versions.
Et d'ailleurs, votre narrateur, l'écrivain, dit... Écrire est un jeu. C'est ce que vous pensez aussi, Yann Manouk?
Oui, ça j'en suis. J'écris que écrire est un jeu et que lire, c'est de croire au mensonge. Et les deux se complètent. Ça vient vraiment de la culture polar des Yarou Lelger. C'est-à-dire que dans le polar, dans le noir, on a une convention entre le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire la convention, c'est très clair. Ce que je vais raconter, c'est de l'imaginaire. Naturellement, je n'ai pas commis tous les crimes que je vais exposer dans le bouquin. Mais voilà, le jeu, c'est de se renvoyer la balle, chapitre par chapitre, de faire croire, d'emmener le lecteur quelque part. Lui, son boulot, ça va être d'essayer de déchiffrer le piège dans lequel on veut l'entraîner. Voilà, et de chapitre en chapitre, comme ça, on joue. Oui, c'est un jeu dans ce sens-là. C'est pas un jeu d'écrire. On écrit un jeu dans lequel le lecteur est l'autre participant.
Mais ici, c'est pas un roman policier. Il y a une intrigue, mais
C'est plus un roman noir qu'un roman policier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une enquête policière. C'est pas un thriller comme Yarou Lelger avec un suspense à chaque chapitre. C'est un roman noir. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur un drame humain pour essayer, en toile de fond, d'évoquer des problèmes plus universels.
Donc là, on aborde avec vous, Yann Manouk, la question écologique, voire la question ethnographique. Ce sont des sujets auxquels vous avez toujours été très sensible, entre les lignes. Ici, c'est aussi la situation, évidemment, de la nature, on vient de le dire, mais aussi celle qu'on a évoquée en début d'entretien, des Indiens, chassés, expulsés, voire massacrés, puisque vous racontez des scènes de chasse, à proprement parler. Pour vous, c'est important que dans vos romans, il y ait aussi une trace de comment ne va pas bien le monde.
Oui, parce qu'on arrive quelquefois, on tombe sur des histoires qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Cette histoire de chasse à l'homme, véritablement de chasse à l'homme, c'est-à-dire de lâcher des Indiens, des pauvres Indiens dans la nature avec des gens qui partent en safari pour les tuer... On m'en a parlé en 66 quand j'étais plongeur dans un petit resto à New York et le gars qui faisait la plonge à côté de moi, qui était un Français d'origine avec son père qui était brésilien, c'est lui le premier qui m'en a parlé. Et il m'a dit voilà, il s'est passé ça et ça au Brésil, je sais pas comment son père le savait. Il m'avait donné à ce moment-là deux noms de personnes qui étaient impliquées. Et il se trouve que ces personnes-là, je les ai fréquentées, croisées en 73 quand j'y suis allé. Et d'un seul coup, on se retrouve en 73, j'étais juste qu'un gamin qui faisait la route, quoi, sac à dos, cigarettes parfumées, sandales, etc. Et d'un seul coup, on se trouve plongé à côtoyer des gens qu'on n'a pas encore le recul de juger, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas vrai. Et c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin aussi. Et d'un seul coup, on se dit, mais moi qui veux écrire des histoires, je ne serai jamais aussi puissant et sordide que le monde peut l'être, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de petit témoignage. Et puis, les cultures, pas en voie de disparition, j'aime pas dire ça, mais les cultures qui doivent lutter pour leur survie, me touchent beaucoup parce que je dois te dire de ça, de mes origines arméniennes, parce que ce que j'aime le plus dans mes origines arméniennes, c'est la notion de diaspora. J'adore appartenir à une diaspora. À la limite, même s'il n'y avait pas de territoire arménien quelque part, même s'il n'y avait plus d'Arménie indépendante, je serais fier d'appartenir à une diaspora. Mais la diaspora, en même temps, c'est aussi la dispersion d'une culture et qui ne trouve sa survie que dans un tissu qu'elle arrive à tisser dans le monde entier. Le problème de ces cultures-là, aussi bien la culture mongole dans les Yarou Lelger que la culture indienne au Brésil, c'est qu'elles n'ont pas réussi à tisser de liens dans le monde entier. Il n'y aura jamais de diaspora mongole. Le jour où les nomades mongols auront disparu. Et il n'y aura jamais de diaspora indienne quand les Indiens auront disparu. Et cette notion d'approcher des cultures, plus que des cultures, d'approcher une humanité dont on sait que la disparition est programmée, c'est quelque chose qui m'a vraiment chamboulé dans ce voyage-là. C'est-à-dire que je suis revenu de ce voyage-là, et je suis revenu du Pantanal particulièrement, complètement changé de ce que j'étais avant de partir.
Est-ce que changer de pays change votre écriture, Yann Manouk?
C'est ce que je mets dans mes dédicaces pour Mato Grosso. Je dis une autre écriture pour un autre voyage.
Oui, donc oui.
Oui, parce que dans l'écriture, il y a deux choses. Il y a d'abord la technique d'écriture. Et puis ensuite, il y a le fond. Le fond ne change pas, c'est-à-dire le goût pour certaines phrases, certaines constructions de syntaxe, je pense que ça m'est propre, c'est propre à chaque auteur. Donc ça, on doit le retrouver d'un bouquin à l'autre, y compris mes tics d'écriture. on doit les retrouver. J'ai du mal à placer les convoyants d'objets directs à la bonne place, par exemple. voilà, il y a des trucs qu'on doit retrouver. Donc, il y a une certaine écriture qu'on doit retrouver. Mais après, il y a une partie technique de l'écriture qui est d'appliquer son écriture au style de livre qu'on veut écrire. Dans Yaroul Elger, j'avais déjà fait cet exercice puisque tout ce qui concernait l'action dans Yaroul Elger était d'un type d'écriture plus concise, plus musclée, des phrases moins longues, souvent adverbiales. Mais dès que je rentrais dans la description du paysage, j'essayais de prendre la même amplitude que le paysage. Mes phrases, volontairement, ça a été plus longue. L'enchaînement des compléments était plus travaillé. Voilà. Donc oui, c'est une autre écriture avec, j'espère, quelque part un fil rouge sur ce que j'espère développer. Parce que je sais pas si c'est le moment de dire, mais dans ce bouquin, il y a trois notions d'amour. Il y a l'amour que vous avez compris que j'ai pour ce pays. Après, la réflexion sur l'amour des personnages et les incompréhensions qu'ils peuvent avoir entre eux. Et puis, il y a un autre amour qui est beaucoup plus égoïste, c'est que c'est presque une demande d'amour. C'est une demande d'amour par rapport au lecteur. Parce que pour moi, il y a deux façons de lire. La première façon, c'est aimer les livres. C'est-à-dire aimer un objet, un récit, pour ce qu'il est, pour ce qu'il véhicule. Et c'est déjà un très bel amour. Et puis ensuite, il y a une deuxième façon, c'est d'aimer les auteurs. C'est-à-dire accorder sa confiance à un auteur en étant prêt à le suivre là où lui veut aller. Des chemins de traverse, des essais pas forcément concluants. Mais, et voilà, Mato Grosso, il est fait pour revendiquer ce genre d'amour. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'une partie des auteurs d'Yaroul Elger ait appris à m'aimer moi en tant qu'auteur, pour me suivre là où je veux les entraîner sur ce bouquin, sur les prochains, qui sont tous, sans exception, différents.
Très bien. Merci beaucoup, Yann Manouk.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Mato Grosso, qui apparaît aux éditions Albin Michel.